tous. Bonjour à toutes et à tous. Homo sapiens d'Ardèche et de la planète entière. Bienvenue dans cette émission spéciale en direct de la Grotte Chauvet 2 à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Grotte Chauvet, l'aventure scientifique. Une émission préparée, réalisée et diffusée conjointement par RCF, Info RC, Radio des Boutières et Fréquence 7 en partenariat avec le syndicat mixte de la restitution de la Grotte Chauvet. Pendant une heure, on va essayer de comprendre avec nos invités ce qu'est cette aventure scientifique et surtout essayer d'en saisir la dynamique qui est sans doute autant en mouvement que les lions de la salle du fond de la Grotte Chauvet, toujours en alerte, l'esprit vif et nimbé encore d'un poil de mystère.
Chauvet, l'aventure scientifique, la nouvelle exposition temporaire vient d'ouvrir ses portes ici à Chauvet 2. Pour en parler, à nos côtés, nous avons Valérie Molès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la médiation culturelle ici à Chauvet. Nous avons aussi Frédéric Sadorge. Bonjour.
Bonjour.
Directeur du syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet. Nous allons faire un point avec vous pour présenter cette expo à nos auditeurs. Cette expo s'inscrit dans les grands événements anniversaires, les 30 ans de la découverte, les 10 ans de l'inscription de la grotte à l'UNESCO et de l'ouverture du site Chauvet 2 Ardèche.
C'est ça. On a eu deux années très riches, ça nous a permis de faire des belles journées et ça en est encore une aujourd'hui puisque c'était une porte ouverte pour poursuivre en fait cette invitation auprès des visiteurs de venir un peu plus et d'en savoir encore plus sur la grotte Chauvet.
Alors je vous redonne la parole juste après, je présente juste notre troisième invité puisque nous allons rentrer ensuite dans le vif du sujet de l'aventure scientifique avec Carole Fritz, bonjour.
Bonjour.
Alors vous, pour vous présenter, vous êtes membre de l'équipe scientifique depuis sa création en 1998 et c'est vous, Carole, qui dirigez aujourd'hui l'équipe de recherche. L'exposition Grotte Chauvet, l'aventure scientifique propose une immersion dans l'activité de recherche de l'équipe scientifique à l'œuvre sur ce site. Elle invite le public à entrer dans la peau de scientifique.
Oui, c'est tout l'objet, mais on va profiter de Carole qui est à nos côtés pour en parler également. Mais effectivement, c'est très complémentaire de ce que nous avons dans la galerie de l'Orignacien ou de ce qu'on peut expérimenter et vivre dans la restitution. Là, l'idée, c'est de comprendre justement comment un objet aussi singulier qu'est une grotte ornée qui a été ornée il y a 40 000 ans, eh bien, comment on fait pour connaître un petit peu l'occupation, la fréquentation de ces Orignaciens, de ces Gravesiens, et justement, comment se fait cette science, hein, c'est tout l'objet. C'est un petit peu, finalement, ce qui est caché. Et on a l'habitude de valoriser les connaissances. Mais là, vraiment, c'est l'idée de savoir comment fonctionne une recherche dans une grotte et qu'est-ce que c'est que le travail des chercheurs.
Alors on va découvrir différentes disciplines, l'archéologie, la paléontologie, l'ichnologie, c'est-à-dire l'étude des traces, l'acoustique, la géomorphologie, la génétique ou encore les sciences numériques. Alors pouvez-vous nous décrire le contenu de l'exposition ou en tout cas nous donner quelques exemples de comment le public va pouvoir se plonger dans la vie de ces scientifiques ?
Alors, il ne faut pas en avoir peur, parce que quelquefois, le terme de scientifique, à la fois intrigue, fascine, et peut faire un petit peu peur. Mais là, justement, c'est une exposition qu'on a créée en partenariat aussi avec la Cité des sciences et de l'industrie, et qui a été faite en collaboration avec les scientifiques. Et l'idée, c'est vraiment quelque chose de très interactif et de très ludique. Donc, quand on dit se glisser dans la peau des scientifiques et se mouvoir dans les pas des chercheurs, c'est vraiment ce qui va être fait. Un exemple tout simple, c'est de s'équiper comme les scientifiques le faisaient. Et là, on va comprendre qu'effectivement, ce travail qui paraît un peu fantastique, imaginaire, ben, c'est un travail qui peut être quelquefois compliqué aussi, cheminer sur les passerelles, devoir travailler avec un ordinateur, avec des objets lourds, mais de ne pas pouvoir cheminer là où on le souhaiterait. C'est une contrainte pour les chercheurs. Donc c'est ça aussi qui est que l'on donne à qui... Enfin, les visiteurs vont pouvoir avoir l'occasion de se mettre dans cette expérience-là.
Alors, vous nous l'avez dit, cette expo, elle est née de la Cité des sciences, elle est partie là-bas, mais comment elle est arrivée ici à Chauvet ?
Bon, on peut peut-être dire qu'on a été contactés tous les deux, à la fois Chauvet 2 et le SMERG, dans la mesure où effectivement c'était une opération qui venait dans le cadre des anniversaires. La Cité des sciences était évidemment intéressée à célébrer à sa manière les 30 ans de la découverte de Chauvet 2. Et donc on était évidemment l'un et l'autre des partenaires privilégiés, à la fois le légataire, la société Kléber-Roussillon, puisque c'est eux qui gèrent le site, et nous en tant que syndicat, propriétaire, à la fois comme propriétaire du site et puis garant, je dirais, de l'inscription de Chauvet 2 au patrimoine mondial de l'humanité. Parce que la difficulté de l'inscription au patrimoine, c'est qu'on doit tenir des objectifs qui peuvent être des objectifs un peu contradictoires. Donc avec un objectif qui est un objectif de conservation, puisqu'on doit préserver le bien pour le transmettre aux générations futures, donc ne pas l'abîmer, ne pas le détériorer. Un objectif de recherche qui aussi a des objectifs importants, et on sait bien quand on recherche, on fouille souvent, et quand on fouille, on détruit. Et tout l'enjeu ici de la recherche sur Chauvet, c'était de fouiller, de découvrir sans détruire. Et bien sûr, le troisième objectif du syndicat, qui est de mettre à la disposition du plus grand nombre. Transmettre, c'est pas seulement transmettre le bien en lui-même dans le temps, mais c'est aussi transmettre la connaissance du bien, faire connaître le bien au plus grand nombre. Et donc là, il nous semblait que cette exposition réunit ces trois contraintes de la meilleure manière possible. On montre comment les scientifiques ont réussi quand même à faire parler cette grotte, alors même qu'effectivement ils ne peuvent pas utiliser les outils qu'ils utilisent habituellement, la pioche, la pelle, ou d'autres, enfin dont vous parlera Carole, et comment on peut et dire que la grotte, c'est pas seulement un objet esthétique, quelque chose qu'on contemple, qu'on admire, qu'on trouve extraordinaire, mais c'est aussi toute une masse de connaissances qui ont été accumulées sur ce site depuis des années, et qui ont été accumulées grâce au travail de Carole et puis de tous ses prédécesseurs depuis 30 ans.
Ah ben justement, on va laisser la parole à Carole.
Oui, on va faire parler les scientifiques qui vont parler de la grotte.
Oui, c'est une exposition qui est pour nous importante, parce que même si, comme le dit la ministre de la Culture, nous ne faisons que des trous, à l'inverse, ni avec des pioches, ni avec des pelles, mais avec des petits instruments chirurgiens, etc., l'idée, c'est vraiment d'étudier cette grotte et de produire une connaissance qui se rapproche de l'anthropologie sociale et culturelle. C'est-à-dire, on n'est pas là uniquement pour étudier les dessins parce qu'il y a des dessins, ou des ossements parce qu'il y a des ossements, mais de tout mettre en lien et comprendre l'interaction entre l'humain et les non-humains, donc les animaux qui ont vécu dans cette grotte, et pourquoi ils sont venus là, et pourquoi ils ont investi ces lieux, et comment ils ont investi ces lieux. C'est la question qu'on se pose.
C'est peut-être aussi le sens de cette interdisciplinarité, puisque vous êtes une équipe vivante qui évolue, et cette pluridisciplinarité, vous la mettez vraiment en avant. Donc c'est ça, c'est pour essayer de comprendre quelque chose de global.
Oui, parce que Chauvet est un sujet. Voilà, un sujet. C'est une grotte, c'est un sujet. Il s'est passé des choses dedans. Pour répondre aux questions qu'on se pose, et pour au final essayer d'avoir un pourquoi, il faut mettre ensemble des compétences qui vont étudier ce même sujet. Et ces compétences, plus elles sont multiples, plus on aura de réponses. Si on reste figé sur une étude, on va vite arriver à n'importe quoi. Là, la chose qu'il faut, c'est croiser ces compétences. La géomorphologie avec la paléontologie, pourquoi les os sont sur ce sol-là, comment était le sol de la grotte quand les hommes ont marché, quand les animaux ont marché, quel est le rapport entre les os, le sol, les parois, quand les ours ils s'ébrouent et qu'ils mettent des petits morceaux d'argile sur les parois, là, on a une chronologie relative, par exemple. On sait que les petits morceaux qui sont collés sur la paroi sont venus après les dessins parce qu'ils sont dessus. Donc, on peut remonter comme ça. Si vous voulez, c'est un écheveau et il faut tirer un fil et tirer tous les fils pour arriver à avoir des réponses. Et pour ça, faut être multi-science et multivision, puisque c'est la culture de cette multivision qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'interprétation.
On va y revenir justement sur cette question du pourquoi. Mais avant, justement, je tire les chevaux, on revient un petit peu, enfin, les chevaux et l'apostrophe,
oui.
on revient un petit peu en arrière, justement, sur ces contraintes. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, quelles sont les spécificités de la grotte Chauvet et surtout les contraintes qui vous mènent peut-être à avoir, à déployer une inventivité, des techniques particulières?
Les contraintes, avant tout, c'est la conservation. Voilà. Cette grotte, elle a 38 000 ans. Elle nous est arrivée dans un écrin exceptionnel, d'une conservation exceptionnelle. La recherche n'est pas là pour détruire. Et que ça soit à Chauvet ou dans n'importe quelle autre grotte, hein, c'est toujours pareil. Hein. Sauf que là, on ne peut pas marcher sur les sols, sinon on les abîmerait. Donc on circule sur des passerelles. Donc on a des contraintes de cheminement et on ne peut pas sortir de ces passerelles, sauf exception. Exception quand c'est un sol dur, etc. Ça veut dire qu'on est toujours à distance. Par exemple, mes collègues paléontologues ne peuvent pas toucher aux ossements. Ce qui, dans leur discipline, est quand même une aberration, puisqu'on touche l'os, on le mesure, etc. Et bien là, on ne peut pas. Donc on se débrouille. Et on essaie de mettre en place des outils qui vont nous aider à toucher virtuellement les ossements grâce à la 3D. Aujourd'hui, c'est une méthodologie qui n'est plus à décrire. En tous les cas, elle est plus innovante. Ça va faire des 20 ans qu'elle est là. Et là, on l'a développée à Chauvet. Et en fait, la 3D fournit les supports de l'étude à toutes les disciplines. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que nous travaillons sur les mêmes supports avec des objectifs différents, mais au final, ces supports, on va pouvoir les croiser puisqu'ils seront interactifs, si je puis dire. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en place. Et des contraintes peut naître, en fait, des choses absolument exceptionnelles, puisque comme on ne peut pas faire, eh bien, on va les chercher, on va les détourner des choses dans d'autres disciplines pour arriver à étudier des supports, des espaces, des matériaux, les analyses des matériaux sans prélèvement, d'analyses physico-chimiques sans prélèvement, etc., etc. Donc, voilà. Et c'est ça qui stimule aussi la recherche, c'est que nous sommes des chercheurs ingénieurs, entre guillemets, et on va aller voir ailleurs si on trouve une solution à un problème pour avoir un maximum d'informations.
Et sur l'évolution, donc, vous le disiez, vous parliez du pourquoi. Alors c'est vrai qu'on a l'intuition ou l'impression que les scientifiques travaillent beaucoup sur le comment, alors que nous, commun des mortels, et peut-être ici le public qui est là autour de cette table, se pose avant tout la question de pourquoi. Pourquoi ces dessins? Alors comment on articule en tant que scientifique les données scientifiques et l'interprétation? À partir de quand on peut avancer une hypothèse, une interprétation?
Alors, moi je dis souvent, il y a trois questions auxquelles il faut répondre. Qui, comment, pour aller au pourquoi. Aller à l'interprétation, d'abord c'est une volonté. On ne peut pas travailler dans un site comme Chauvet, dans une autre quand on est en simplement faire du descriptif. Au bout d'un moment, excusez-moi, mais on n'est pas à la sécurité sociale, on ne remplit pas des fiches de présence, d'absence, et puis voilà. Il faut aller jusqu'à l'interprétation. Alors évidemment, on va accumuler un certain nombre de faits archéologiques, de datations relatives, d'événements dans la grotte, qui vont nous faire émerger des questions, des solutions. Et il va falloir aller au-delà. On vous dit, ce dessin est rouge, il est sur le noir, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la salle du fond, ça veut dire qu'on a un dessin noir de moins 38 000 ans et en dessous, on a des dessins rouges. Ça veut dire qu'on a des dessins plus anciens de 38 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'interprétation? Eh bien, ça veut dire que les groupes humains sont là depuis certainement beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Et aller plus loin, eh bien, c'est oser dire, voilà, ils sont venus faire ces dessins-là. Il y a des groupes qui se sont installés. Il y a eu certainement des cérémonies. Etc, etc, etc. Bien sûr, on n'a aucune preuve de tout ça, parce que ça ne laisse pas de traces archéologiques. Mais il faut aller plus loin, il faut essayer d'interpréter. Et puis franchement, si on se trompe, on se trompe. On dit, ah ben non, c'était pas ça. On remet sur la table les faits et on recommence. Parce que la science, c'est ça. C'est un éternel recommencement, surtout dans nos disciplines, où on travaille sur les dessins. En gros, on fouille les poubelles et on regarde les boîtes dans lesquelles tout est mis, la géomorphologie, l'archéologie, la paléontologie, et on essaie de comprendre comment vivaient les espèces qui étaient présentes, les humains et les animaux. Donc, on a le droit de se tromper, nous ne sommes que des humains.
Justement, c'est une aventure scientifique, mais c'est l'aventure de scientifiques, donc des femmes et des hommes, avec de l'audace, donc on l'a entendu, avec des affects, quelquefois de l'émerveillement, j'imagine. Comment on fait en tant que scientifique pour travailler justement avec toutes ces émotions?
Alors, Chauvet, oui, c'est une aventure scientifique, mais c'est surtout pour moi une aventure humaine. Et mes collègues qui sont là, qui, voilà, on est tous très liés. Et cette grotte, on ne peut pas entrer dans cette grotte sans émotion. C'est impossible. En tous les cas, pour ceux que je connais, c'est impossible. Ça n'empêche pas qu'on peut travailler sérieusement et avoir des émotions. Moi, je me surprends régulièrement, travaillant à la salle du fond où je dois faire des photos ou analyser quelque chose, et puis tout d'un coup, je réalise que je ne suis en train de rien faire que de regarder des panneaux que je connais depuis 30 ans.
Mmh. Qui sont le panneau des lions.
Qui sont le panneau des lions ou d'autres. Parce qu'on se laisse embarquer, si je puis dire, très trivialement, par cette grotte qui est fabuleuse. Pareil sur les sols, sur... Voilà. L'émotion, pour moi, elle est toujours présente. Voilà. Après, y a des fois, on ferme les écoutilles et puis on trace la route de la science pure et dure et on dit, bon, là, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais on aime bien s'accorder quelques petits moments. On se dit, ah, qu'est-ce qu'on est bien là, qu'est-ce que c'est beau.
Et peut-être aussi l'émotion affleure et l'imagination. Et il en faut de l'imagination pour justement imaginer des hypothèses.
La recherche, c'est l'imagination. Sans imagination, il n'y a pas de recherche. Donc, des fois, il faut mettre des choses, se lâcher, et puis on se rend compte que ça ne marche pas et que ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Mais si on n'a pas d'imaginaire, si on n'a pas d'idée, on ne fait pas de recherche.
Merci.
Vous nous avez parlé, Carole, d'un outil que vous utilisez régulièrement, c'est la 3D. Alors justement, Laura, Louise et Lina de Radio des Boutières sont allées à la rencontre de Thomas Sagori et Léo Bayel, qui sont spécialistes de la numérisation 3D. Et ils vont nous parler de la photogrammétrie.
Dans l'exposition, il a été choisi de mettre en avant une des méthodes que l'on utilise beaucoup dans la grotte Chauvet pour produire des modèles 3D, c'est la photogrammétrie. Comme son nom l'indique, il y a la partie photo. Donc, cette méthode consiste à prendre un nombre important de photos et à couvrir avec des photos communes des objets ou des parties de la grotte. Et la partie grammétrie de photogrammétrie consiste à faire en sorte que ce soit juste d'un point de vue métrique et donc calé au niveau de l'échelle pour pouvoir servir de support à l'étude et à l'analyse. Dans l'exposition, on a fait le choix de proposer ce module parce que à Chauvet, c'est un cadre et un lieu qui est exceptionnel mais qui est aussi très, très complexe et on a dû adapter notre méthodologie et donc on invite les visiteurs, en particulier les enfants, à faire comme nous dans la grotte, à utiliser une perche avec l'appareil photo et on leur explique étape par étape en quoi cela consiste.
Génial, et ben on va faire l'expérience ensemble.
Allons-y, je passe le relais à Léo qui va vous expliquer tout ça.
Merci Thomas.
Du coup, Léo Bayel, donc, je suis infographiste 3D et géomaticien au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye avec Thomas Sagori. Et du coup, je réalise pour ce métier-là, je réalise justement des numérisations 3D, que ce soit pour le musée ou sur des chantiers archéologiques, et aussi toute une partie SIG, carto, etc.
Et là, actuellement, au sein de l'inauguration de l'exposition Une aventure scientifique, tu animes l'impression 3D avec cette perche qui permet, par exemple, de prendre en photo en 3D, le crâne d'un ours de caverne. Est-ce qu'on peut se mettre en situation
oui,
justement avec la perche? Comment
Alors tout d'abord, déjà on commence par savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc ça commence par des demandes qui sont faites par l'équipe de recherche. Ensuite on regarde justement quelle est la distance, comment est-ce qu'on peut y accéder justement à cet objet. Donc là par exemple on est dans la salle du crâne. Donc cette salle du crâne, elle n'est pas accessible directement par les passerelles, mais il y a des pas japonais, donc des plastiques au sol qui ont été disposés sur le on peut marcher et pour accéder au crâne il faut pouvoir justement déporter l'appareil photo de quelques mètres et donc c'est pour ça qu'on va utiliser une perche pour tenir cet appareil photo. Et donc la première étape en fait c'est souvent de prendre une charte colorimétrique pour corriger les couleurs a posteriori et une fois que ça c'est fait on va pouvoir justement prendre plein de photos tout autour du crâne. D'abord l'idée c'est vraiment de prendre la perche, de la déplier et on va venir en fait mettre l'appareil photo au-dessus de l'objet qui nous intéresse et de tourner tout doucement autour de l'objet. Et l'idée, c'est de vraiment d'avoir une couverture qui soit la plus complète possible tout autour de l'objet, d'éviter d'oublier n'importe quel endroit et aussi de pouvoir avoir un recouvrement entre les images. Donc c'est le fait d'avoir des images qui soient un petit peu redondantes avec des informations qui apparaissent sur les images plusieurs fois, parce qu'en fait ça va servir justement à croiser toutes ces informations là et gagner en fiabilité. Et donc l'idée ça va être vraiment de tourner tout autour de l'objet, d'avoir des angles un peu improbables comme par exemple le fait de voir en dessous de la mâchoire ou justement derrière le crâne. Donc ça c'est des informations qui sont assez intéressantes, notamment pour d'autres collègues.
Gilles Tozello nous a rejoint. Gilles, préhistorien, spécialiste de l'art pariétal, membre de l'équipe scientifique depuis 1998 et artiste. C'est à ce double titre d'ailleurs que vous avez reproduit les panneaux des chevaux et des lions pour la reconstitution de la grotte Chauvet. Alors on va essayer avec vous, si vous voulez bien, puisqu'on a peu de temps, de faire une étude express à partir d'un seul exemple, le panneau des lions. Comment on étudie le panneau des lions? Alors d'abord, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous décrire comment on y accède et aussi ce qu'on y voit?
Alors on y accède, c'est dans une des parties les plus profondes de la grotte. On va bien être à environ 250 mètres de l'entrée. Et donc on est vraiment dans le tréfonds de la grotte. Ce qu'on y voit maintenant, alors on est évidemment sur notre passerelle aujourd'hui métallique, on est à peu près à 6 ou 7 mètres de la fresque, ce qui est quand même assez gênant pour y voir les détails. Mais néanmoins, comme les dessins sont dans un parfait état de conservation, on voit surtout, bon, ça s'appelle le panneau des lions parce qu'on a évidemment une troupe de lions qui sont tous orientés dans la même direction, vers un troupeau de bisons. Qu'il semble poursuivre et les regarder, enfin il les regarde fixement.
Oui. comme vous en ce moment. Enfin, on se regarde fixement. Qui est lion, qui est bison, je ne sais pas. Alors comment on l'étudie? Comment vous faites? Il y a un relevé, il y a un repérage trait par trait. Expliquez-nous un peu.
Eh bien, la technique a évolué grâce à la 3D, le fait que grâce aux perches télescopiques et donc aux clichés numériques qui maintenant sont de grande définition, on peut avoir une sorte de jumeau numérique du panneau, hein, donc dans l'ordinateur, et donc zoomer à l'intérieur, voir les détails techniques, etc. Et surtout, grâce aux perches, on a pu approcher suffisamment un appareil photo avec un flash pour avoir des lumières rasantes et donc voir beaucoup mieux la question des superpositions, c'est-à-dire que les dessins se recouvrent en partie les uns les autres, et donc il est important de savoir qui a été fait en premier.
Mais ça c'est assez récemment, cette technique. C'est-à-dire, ma question c'est, Gilles, vous avez reproduit le panneau des lions qui, j'imagine, vous a, en le reproduisant pour la reconstitution, ça vous a permis justement de mieux l'étudier, d'y aller complètement, de savoir par quel bout le prendre.
Oui, ça c'était il y a déjà quelques années, il y a plus de 10 ans. Donc effectivement, on n'avait pas cette qualité documentaire à l'époque, mais on avait, disons qu'on a fait avec les moyens du bord de l'époque, qui étaient déjà pas mal. On avait déjà quand même un modèle numérique du panneau, sinon on n'aurait jamais pu reproduire la paroi. Et donc on a pu, enfin moi j'ai pu, j'ai fait les observations que j'ai pu à partir des photos, bon, qui encore une fois, vu l'état de conservation du général de la grotte, c'est quand même plus facile que dans d'autres cas. Et ensuite, là par contre maintenant, cette année, moi je suis en train de l'étudier de manière plus approfondie. Et c'est là que j'ai pu effectivement voir que c'était plus compliqué, on va dire, au niveau chronologique, au niveau composition, que ce que j'avais cru percevoir il y a 10 ans.
Donc c'est en mouvement. Donc la science est évidemment en perpétuelle évolution, c'est ce que disait Carole. Il y a toujours des apports nouveaux.
Mais oui, c'est-à-dire que en fait le panneau lui-même n'a pas changé. Il faut souhaiter qu'il ne change jamais, mais c'est notre regard à nous qui change. Et donc, et surtout les moyens d'analyse. Enfin, il n'y a pas que les moyens d'analyse, il y a aussi la connaissance interne intime qu'on a de la grotte, parce que effectivement toutes ces années passées font que il y a des sujets qu'on a vus, dont on a perçu progressivement la complexité. Et l'art pariétal s'en est un, c'est-à-dire que c'est effectivement, on voit déjà au premier regard que c'est un art complexe. C'est bien pour ça que quand les datations ont été connues en 1995, elles ont fait un véritable... C'était une révolution hein, pour notre discipline, parce que jamais on attendait des dates aussi anciennes.
On rappelle, hein, il y a 38 000...
Voilà.
Alors, justement, sur ces dates, est-ce qu'on est sûr que tous les dessins du panneau des lions sont de la même période? Est-ce qu'on peut en être certain ou...
Moi, je suis convaincu qu'ils sont d'une même conception, parce que effectivement, sinon, c'est plutôt une série d'indices qui vont dans le même sens, à savoir d'abord le fait que tous les lions regardent dans le même sens, qui sont tous orientés de la droite vers la gauche, qui a une dynamique, qui on voit bien que c'est un groupe qui se déplace, le fait qu'ils regardent vers les bisons, donc qui sont juste sur leur gauche, qui eux-mêmes regardent à gauche, ça nous conduit toujours plus vers la gauche, et à ce moment-là, sur l'arête qui balise, qui termine le panneau sur la gauche, on a une série de têtes de bisons alignées verticalement et qui nous regardent de face. Et donc ça veut dire que, si on résume, le spectateur qui est face à la fresque regarde les lions, il est conduit par le regard des lions vers les bisons tout à coup changent d'orientation et regardent vers le spectateur. Donc vous avez un triangle visuel qui est créé et qui, à mon avis, résulte d'une volonté, d'une intention. On ne connaît, enfin, je ne crois pas que ce soit, puisse être l'effet du hasard qui conduise à ça. C'est d'ailleurs tellement, moi-même, je reste assez, comment dirais-je, surpris de voir la complexité, si vous voulez, auquel on était déjà arrivé à cette époque extrêmement lointaine hein, de nous, de voir que des problèmes artistiques aussi complexes, comment raconter une histoire, comment impliquer les spectateurs dans l'histoire, etc., étaient déjà abordés et résolus par ces artistes qui vivaient il y a 40 000 ans.
Et est-ce que, à partir donc, de ces études, depuis une quinzaine d'années, enfin approfondies là depuis quelques années ou quelques mois, je ne sais pas, cette salle du fond, là, Carole disait, c'est la recherche en ce moment, vous êtes dans cette salle du fond. Est-ce qu'elle vous permet aujourd'hui d'avancer des hypothèses sur une interprétation, par exemple, ou sur un cadre, justement, d'interprétation, un cadre interprétatif?
Oui, elles nous permettent... il faut dire qu'on a progressé dans la grotte. On vient de sortir un livre, là, qui concerne la première moitié, hein, donc aux éditions du patrimoine. Donc ça nous libère, on va dire, d'un grand poids de documentation à fournir. Là, maintenant, on se consacre effectivement à la deuxième moitié. Et oui, on peut formuler un cadre interprétatif. Avec Carole, il y a bien longtemps qu'on a proposé un cadre mythologique. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, à travers ce que j'ai dit précédemment, que il y a un récit qui est raconté. Et donc ce récit, il nous paraît s'intégrer dans un cadre mythologique, dans le sens où il n'y a pas de société sans mythe, comme dit un ethnologue comme Lévi-Strauss, bien sûr. Et donc, ce qui est tout à fait fondé, je veux dire. Et donc, ça veut dire que ce qui se passe dans les grottes, mais pas seulement à Chauvet, est probablement ce qu'ils nous ont laissé de leur vision du monde. Et c'est ça qui est finalement le plus important, c'est comment en fait on peut décoder progressivement. Alors la grotte Chauvet est certainement l'une des grottes où on peut le mieux le faire, parce que il y a notamment cette figure emblématique du lion des cavernes qui, moi je pense, est une sorte de métaphore, de représentation symbolique des chasseurs eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une société de chasseurs qui vivait donc il y a 40 000 ans, chasseurs-collecteurs, et donc, à l'époque qui était la leur, le plus grand chasseur naturel, leur concurrent direct, c'était le lion des cavernes. Et il est probable que, à la fois par crainte et par admiration et fascination, ils se soient appropriés cette figure animale pour en faire une sorte de pour se projeter eux-mêmes dans ce personnage-là et en faire un personnage de leur récit mythique.
On est bien loin des premières, enfin, d'autres hypothèses, d'autres interprétations qui avaient lieu jadis sur voilà la chasse magique où
voilà oui.
On a pas mal évolué. On est dans la grotte du fond. La grotte du fond, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est-à-dire que on va aussi prendre en considération les parois.
Jean-Jacques Delannoy, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes géomorphologue, anthropo-géomorphologue, c'est-à-dire que vous étudiez la géomorphologie de la grotte, son évolution avant, pendant et après les fréquentations paléolithiques. Géomorphologue, anthropologue, géomorphologue, qu'est-ce que ça veut dire finalement et comment ça se concrétise sur le terrain ?
Alors la géomorphologie, effectivement, c'est l'étude des formes de la grotte, donc ici du paysage souterrain, parce que c'est pas un relief, en fait. Une grotte a l'impression de dire c'est minéral, c'est un relief. Non, comme il a été investi par ces populations passées, ça prend une autre dimension, ça prend une dimension paysagère. On va s'inscrire dans ce relief qui va devenir paysage. Et le géomorphologue, lui, il va essayer de lire un petit peu les formes, les dépôts qu'il y a dans la grotte pour essayer de reconstituer l'histoire, la genèse, l'histoire et l'évolution de cette grotte. Et dans la grotte Chauvet, ce qui va être important, c'est pas raconter toute l'histoire de la grotte qui a commencé il y a 5 millions d'années, c'est surtout de quelle est cette histoire de la grotte pendant ces périodes de fréquentation humaine et animale. Et donc là, le sens de notre travail dans le cadre de l'équipe scientifique, ça va être de dire comment était la grotte au moment où elles ont été fréquentées. Parce que la grotte, elle a continué à évoluer. Aujourd'hui, c'est une très, très, très belle grotte, avec des tas de stalactites, de stalagmites, des belles couleurs, etc. Sauf que ça, c'est un vernis qui date simplement de 10 000 ans. Ça veut dire qu'ils ne l'ont jamais vu comme ça, cette grotte. Ils l'ont vu de manière extrêmement différente. Donc, essayer de reconstituer la grotte telle qu'elle était est extrêmement importante, parce que cette grotte a été, comme Gilles l'a dit, elle a été investie. La forme du relief, c'est pas du tout anodin. C'est le temps que viennent s'inscrire les œuvres avec des histoires, avec des correspondances liées aux formes de la grotte. Donc c'est extrêmement important d'aborder cette question-là. Et l'anthropogéomorphologie, c'est comment cette étude de la géomorphologie permet de toucher des gestes humains. Et là, on va voir que dans la grotte, il y a des choses qui, naturellement, ne font pas sens. C'est-à-dire que les processus de la nature ne peuvent pas faire ces formes-là, ces dépôts-là. Et donc, ça veut dire que là, on va, par cette étude très précise, on va être capable de dire, tiens, ces blocs-là ont été dépassés, déplacés. Tiens, ces blocs-là, ils ont été accumulés. Tiens, ces blocs-là, ils ont été alignés. Et voire même, donc, dans les travaux... En fait, cette grotte, comme ça a déjà été dit, tout est sous nos yeux, en fait. Donc, en fait, c'est à nous. Toute l'histoire est sous nos yeux, mais on ne voit pas toute cette histoire. Donc il faut qu'on trouve des clés de lecture, et c'est ça qui fait aussi la puissance de cette longévité de l'équipe scientifique, c'est que petit à petit, on a des clés de lecture qui, d'une visite à l'autre, on dit « tiens, mais ça, je n'avais jamais vu, tiens, j'avais jamais... » alors que c'était toujours sous nos yeux. Et par exemple, cette année, on a mis en avant un très bel aménagement d'un passage, en fait, dans la grotte, où il y a des blocs qui ont été enlevés, des blocs qui ont été déplacés, tout simplement pour passer à un dénivelé qui est assez compliqué. Donc ça veut dire aussi que c'est une grotte qui a été aménagée. Et on aménage une grotte parce qu'on y vient, on y revient, on va revenir, on va progressivement donc, déplacer des choses pour que le cheminement soit plus facile ou autre chose. Donc c'est une grotte qui vit, et cette vie de la grotte, eh ben, on va aussi le voir dans le minéral, quoi, donc dans ce rocher, dans ses formes.
Alors vous, là je dis vous, mais c'est pour parler de l'équipe, hein, vous avez pu notamment reconstituer l'entrée historique et la datation de l'éboulement du porche d'entrée de la grotte grâce à la cartographie des sols, à l'étude de la zone d'entrée, à l'analyse des aménagements anthropiques. Comment votre travail à vous, plus spécifiquement, a permis de contribuer à cette datation ?
Alors, donc d'abord, il a fallu... reconstituer le porche tel qu'il était. Et effectivement, là, c'est toutes les disciplines qui ont contribué à ça. Nous, on est un peu juste un chef d'orchestre, mais je veux dire, tout le monde a joué son instrument. Donc, le 3D, les données de la géomorphologie, etc., qui va donc petit à petit permettre de donner l'enveloppe de ce qu'était ce porche. Et ça va être important parce que aujourd'hui, ce porche a été complètement bouché. par donc des effondrements qui viennent de la falaise qui est juste au-dessus et qui à un moment donné est tombée. Et donc là, du coup, c'était important parce que notamment au moment où il y a eu les premières datations qui sont sorties, avec un peu de la contestation sur ces dates, etc. Donc on s'était dit, bon, si on arrive à complètement dater le moment où la grotte s'est fermée, eh ben, forcément, il n'y a plus personne qui a pu rentrer dedans, ni un animal, ni les hommes. Donc c'est ça qui a aussi motivé cette étude-là. Et donc, qu'on a regardé aussi toujours avec ces outils de la 3D, de la modélisation 3D et de la géomorphologie, on a vu qu'il y avait plusieurs écailles qui étaient emboîtées les unes au-dessus des autres, juste au-dessus de la grotte. On s'est dit, c'est peut-être pas un seul phénomène. Il y a peut-être plusieurs processus, événements qui sont faits. Et donc, du coup, on a été faire des prélèvements dans la falaise pour faire ce qu'on appelle des datations cosmogéniques, donc c'est en fait qui vont permettre donc de pouvoir dater à partir de quand le rocher est remis à nu suite au départ donc des blocs sur la paroi. Et c'est comme ça qu'on a pu donc distinguer trois événements autour de 29 000 ans, autour de 23 000 ans, 500 mais on va dire pour simplifier 23 000 ans et 21 000 ans.
Ce sont des éboulements à différentes périodes.
Et donc à 21 000 ans, c'est sûr, plus personne rentre dans la grotte. Peut-être déjà vers 23 000 ans, récemment, il n'y a plus grand monde qui rentre dans la grotte parce qu'elle est déjà bien, bien bouchée. Et là encore, on continue encore à travailler là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a des nouveaux outils qui sont donc la modélisation, qui sont la réalité virtuelle, qui permet aussi de mieux se représenter ces événements-là. Et ça, c'est important parce que ça donne à voir aussi la pénétrabilité ou pas. Donc, de la grotte, et donc il y a encore des tas de travaux qui sont en cours sur ces questions-là.
Alors on a pu aller visiter l'expo là avant de faire ce plateau radio, et dans l'exposition, sous une vitrine, on peut voir une stalagmite, une vraie stalagmite, donc issue de la grotte Chauvet. Elle est coupée en deux dans la longueur, et à côté on peut voir une mini perceuse qui permet des prélèvements de poudre, des poudres de calcite, hein, c'est ça, pas de bêtises. Comment on étudie un objet tel qu'une stalagmite ?
Alors, il y a beaucoup d'études qui sont possibles à faire. En fait, c'est vraiment un outil, c'est vraiment un objet, là aussi minéral, hein, sur lequel il y a encore 20-30 ans, on ne faisait pas parler ça, qu'on trouvait ça beau. Hein. Maintenant, on a coupé ça, puis on a vu que il y avait, au-delà de la beauté, il y avait même de la beauté dans la beauté, puisqu'il y a des cernes de croissance, oui, donc on voit la grotte qui pousse, quoi, la concrétion qui pousse au fur et à mesure du temps. Et puis, c'est surtout un objet qui est très, très intéressant et pertinent, parce qu'on va pouvoir prélever pour faire des datations. En fait, donc les petits trous qu'on voit, hein, donc sont des éléments de prélèvement, donc de la poudre qu'on va extraire de ça, et on va pouvoir dater cette calcite. Et donc là, on va pouvoir voir que cette calcite a commencé à pousser il y a 13 000 ans. Quel hasard, 13 000 ans, c'est la fin des périodes froides, donc d'une glaciation, c'est le réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui, et c'est normal que donc la végétation elle revient, les sols se refont, et donc la vie revient, et que les concrétions vont commencer à pousser à ce moment-là. Et puis après, ces cernes de croissance, elles vont nous donner des informations extrêmement précises sur l'évolution du climat, de l'humidité, parce qu'on voit que des cernes, il y en a qui sont très très fines, d'autres qui sont beaucoup plus épaisses. Quand elles sont très fines, ça veut dire qu'il y a très 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 peu d'eau qui arrive donc dans la grotte, donc ça veut dire que le climat est sec. Et puis après, on va voir que les lamines s'élargissent, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'eau qui arrive dans la grotte, donc ça veut dire qu'il peut plus au-dessus. Et donc, on va pouvoir faire comme ça une chronique extrêmement précise des variations du climat et de l'environnement qu'on va pouvoir caler dans le temps, puisqu'on peut faire des datations. Et donc ça nous donne des mémoires, donc une grande, grande puissance, et qui sont, on parle souvent des carottes glaciaires, des carottes sédimentaires, mais ce qui se passe au pôle, c'est pas ce qui se passe au-dessus de la grotte, ce qui se passe au fond de l'océan, c'est pas ce qui se passe au-dessus de la grotte, et là on a vraiment un enregistreur qui est vraiment celle de l'espace, donc de vie de la grotte, mais aussi des hommes et des femmes qui l'ont fréquenté.
Alors j'ai vu sur votre bio que vous utilisez l'approche morphogénique. Oui. C'est quoi l'approche morphogénique ? C'est ce que vous venez d'expliquer peut-être ?
Genèse, donc comment les formes donc, vont... comment les processus vont créer des formes, et donc une genèse des formes, et donc une histoire des formes dans le temps. Voilà.
Merci Jean-Jacques Delano.
Je vous remercie.
Il y a de l'audace, de l'émotion et de la beauté dans la science, dans l'étude scientifique. Merci beaucoup. On va changer de plateau, et en attendant, Laura, Louise et Lina ont baladé leur micro dans l'exposition côté paléontologie. On écoute, on paléo écoute.
Les modèles 3D de la grotte Chauvet que l'on produit au sein de l'équipe nourrissent aussi un nouvel axe de recherche qui se développe dans l'équipe autour de la paléoacoustique, c'est-à-dire la reconstitution du son à l'époque des femmes et des hommes de la préhistoire. Et c'est un axe qui est complètement nouveau. Donc on travaille sur, et c'est Luna Valentin qui porte ce projet, qui fait sa thèse actuellement à l'université de Stanford, et qui travaille pour définir l'empreinte sonore des salles, et ensuite qui va travailler à partir des données géomorphologiques que l'on connaît pour reconstituer le son à l'époque. Donc elle va travailler sur la façon dont le son d'un ours se perçoit, le son dont les grands feux que l'on connaît à Chauvet peuvent s'entendre, et puis il se trouve que pour la préhistoire, on a aussi connaissance d'instruments de musique, donc il y a eu des expérimentations autour de ces données, de ces instruments, et ça permet de toucher un sens qui nous semble complètement volatile, presque impossible à mesurer, qui est l'ouïe. Et nous sommes sapiens, et les femmes et les hommes de la préhistoire maîtrisaient l'art, mais aussi la musique.
Quel est votre son préféré de l'exposition ?
Le son de l'eau et de l'ours, moi j'ai trouvé. Parce que le son de l'eau, il est apaisant, il est en arrière-plan, enfin dans la grotte, et il est très doux. Du coup, j'ai beaucoup aimé ça.
J'ai bien aimé écouter la voix des scientifiques qui parlent de leur propre recherche, parce que souvent on lit des textes et là c'est vraiment leur émotion en fait, qui transparaît.
Ben, en fait, c'est quand on s'est enregistré notre propre voix, d'écouter l'écho que ça fait dans la grotte. Je trouve ça vraiment très très impressionnant de pouvoir découvrir cet univers. C'est hyper intéressant de pouvoir voir le contraste avec ce milieu aérien, quoi.
C'est vrai que le son de la grotte est original parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire, donc on ne peut pas le connaître. Donc lorsqu'on l'entend comme ça, qui est super bien numérisé, bah, ça fait un peu l'effet grotte, quoi, de nos ancêtres.
Et nous sommes toujours en direct de Chauvet 2 à l'occasion de l'inauguration de l'exposition Grotte Chauvet, l'aventure scientifique, émission préparée, réalisée et diffusée conjointement par RCF Info, RC, RDB et Fréquence 7. Philippe Foss et Nicolas Latteur viennent de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors vous êtes paléontologue. Qu'est-ce que vous étudiez à Chauvet ?
Alors, en paléontologie à Chauvet, on étudie essentiellement les vestiges osseux et dentaires qui jonchent le sol, puisque, comme Carole l'a dit en début d'émission, on a dans toutes les galeries énormément d'ossements qui sont éparpillés sur tous les sols paléolithiques.
Alors, on va prendre l'exemple de l'ours, peut-être, pour comprendre le processus scientifique. La grotte présente de nombreuses traces d'urcidés. On va commencer peut-être par parler de celles qui se trouvent au sol, et puis après on parlera de celles qui sont sur les parois. Donc au sol, on trouve des boches, des squelettes, des empreintes, des excréments. Comment on fait parler tout ça et pourquoi ?
Alors depuis le début dans les recherches, Carole l'a dit, on ne sort pas les ossements et on ne les étudie pas en laboratoire. L'idée, c'était de faire des déterminations paléontologiques. Quelles espèces sont présentes sous la forme d'ossements à Chauvet ? Et une fois que ce travail est fait pour les ossements, était fait le même type d'analyse pour toutes les traces qui sont présentes ici dans cette grotte de manière exceptionnelle, puisque on a à peu près 4000-5000 mètres carrés de sol préhistorique en place, d'où les passerelles pour cheminer, parce que si on se promenait naturellement dans la grotte, on détruirait ces sols paléolithiques qui contiennent énormément d'informations, d'ichnologie, donc des empreintes essentiellement, et puis des modifications qu'ont fait les ours au cours de leur passage hivernaux.
Vous utilisez aussi la 3D ?
Oui, depuis quelques années, la 3D nous permet d'une part d'aller rend accessible des zones qui ne sont pas accessibles pour nos recherches, et puis d'autre part permet de compléter nos informations puisque ça nous permet d'avoir des petites formes qui se distinguent sur ces sols qui ne sont pas visibles à l'œil nu depuis les passerelles.
Et qu'est-ce que toutes ces traces nous apprennent sur l'ours et son occupation à Chauvet ?
Nicolas Latteur.
Eh bien, elles nous apprennent beaucoup d'informations sur le comportement de ces animaux.
pourquoi il fréquentait le milieu souterrain, pourquoi il fréquentait les grottes, dans quelle partie de la grotte il y allait, peut-être avec quelle régularité, selon quelle saison. Faut bien comprendre aujourd'hui que l'ours des cavernes dont on parle depuis tout à l'heure est une espèce fossile, donc qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Et donc on va étudier un comportement qui, de fait, n'a pas d'équivalent. Alors on peut s'intéresser forcément aux plus proches cousins, que sont par exemple les ours bruns, mais on travaille sur des comportements qu'on ne peut pas étudier sur des populations actuelles. Donc le travail du paléontologue, c'est notamment comprendre cette biologie, ces cycles de vie qui vont pousser ces animaux, ces plantigrades à fréquenter le milieu souterrain. Donc c'est pour cela que, comme vous disiez tout à l'heure, on a à Chauvet une très grande mortalité, donc la présence de squelettes et d'ossements à la surface des sols liés à l'hivernation de ces animaux, puisqu'ils vont fréquenter les mois les plus rigoureux de l'année et occuper les cavités à cette occasion-là. Les femelles gestantes vont mettre bas leurs petits, et les mâles vont également aussi hiverner à ce moment-là. Et on a pendant cette période-là une forte mortalité qui est liée à la fois aux réserves que les animaux, les réserves de graisse et réserves alimentaires que les animaux ont pu faire avant de rentrer en hivernation. Et puis cette mortalité, elle va toucher aussi les animaux les plus fragiles du fait de l'état d'hivernation, donc les plus jeunes, ce qu'on appelle les individus néonataux, périnataux, les jeunes oursons, ou les individus les plus âgés, les plus vieux. Donc ce qui explique du coup qu'on ait tous ces ossements et ces squelettes éparpillés à la surface des sols de la grotte Chauvet. Mais cela nous donne une idée que des animaux qui sont morts sur place et ne nous renseigne pas forcément sur le nombre total d'animaux qui sont venus dans la grotte. Donc de ces traces, de ces ossements, de ces empreintes, de ces griffades qu'on aura aussi sur les parois, on peut en déduire un comportement et une habilité de ces animaux à fréquenter le milieu souterrain qui, de sa manière, constitue aussi une extension de leur territoire de surface.
Alors comment vous arrivez à ces hypothèses, à ces conclusions ?
Et bien justement, en passant beaucoup de temps à observer ce qui existe sur place, donc à documenter, analyser, décrire ce qu'on a dans la grotte Chauvet, les tailles des empreintes, la taille des ossements, leur nombre, leur disposition. Et puis on va aussi se rapprocher des n'ayant pas d'ours des cavernes actuellement pour les étudier, on va se rapprocher des plus proches cousins que sont les ours bruns, le grizzly, le kodiak, qui eux aussi, ou l'ours brun dans les Pyrénées par exemple, qui lui aussi a un comportement d'hivernation, qui n'est a priori pas le même que celui de l'ours des cavernes, puisqu'il hiverne moins loin dans les cavités, mais c'est quand même des comportements au sein d'une même famille qui peuvent être comparés avec ce qu'on observe dans la grotte Chauvet.
Vous comparez avec ce qui existe actuellement.
Exactement.
Sur les parois, quelles sont les traces dont vous avez parlé de griffades ? Quelles autres traces on trouve de l'ours à Chauvet ?
Alors sur les parois, il y a globalement deux types de marques produites par les ours. Il y a ces griffades qui sont très très abondantes, notamment dans la seconde partie de la cavité, là où il y a l'obscurité règne en totalité. Ce sont des griffades qui sont produites soit par des petits ours, des oursons, parce qu'elles sont assez de petite taille et puis pas très hautes au niveau de la hauteur de paroi. Et on a des griffades un peu de plus grande taille qui sont produites par les ours femelles. Et à côté de ce registre des griffades, qui est souvent proche en dessous ou au-dessus des peintures, donc qui nous renseigne également sur la chronologie des occupations des différentes galeries de la cavité, on a également une autre type de marquage, de marque produite par les ours, ce sont les polis des parois, puisque les ours, ne voyant pas dans l'obscurité, ils se sont déplacés dans les parties profondes de la grotte en longeant les parois, et du coup les passages répétés au fil des siècles et des millénaires ont littéralement abrasé la roche tendre qui est le calcaire de cette grotte Chauvet, et nous renseigne également donc sur les endroits par où ils ont circulé dans ces galeries terminales de la cavité.
Alors vous en avez un petit peu parlé, Philippe Foss, et je trouve ça super intéressant. C'est l'étude justement des superpositions des traces donc d'ours avec les traces humaines et notamment les dessins qui ont permis une chronologie relative de l'occupation de l'espace entre les hommes et les ours. Ils ont donc partagé la grotte à la même période, mais pas à la même saison.
Oui, oui, il y a deux types, pour établir un peu cette chronologie, il y a deux types d'approches. Il y a les datations directes que l'on fait sur les ossements, ou bien sur les charbons de bois produits par les activités humaines. Et puis il y a cette chronologie relative qui est en fait tout ce qui est produit par les modifications qu'ont produit les ours ou les hommes par leurs allées-venues répétées dans la cavité. Et effectivement, Chauvet demeure la seule grotte connue actuellement avec cette récurrence des alternances dans les occupations des différentes galeries qui nous montre à quel point, dans un laps de temps très court, sur 10 000 ans, peut-être 15 000 ans tout au plus, il y a eu énormément d'entrées et de sorties des ours en alternance avec les fréquentations humaines. On part du principe, puisque comme Nicolas le disait, que les ours des cavernes, à l'instar des ours actuels, viennent dans les grottes pour hiverner. D'où ce comportement de creusement des bauges dans les parties terminales de la grotte, d'où les naissances des oursons, comme les ours bruns d'aujourd'hui. Et on peut supposer que les hommes venaient peut-être réaliser leur peinture à la belle saison, lorsque les ours, évidemment, n'étaient pas présents dans la cavité.
Avant de se quitter, on peut peut-être parler des axes actuels de vos recherches autour du loup et du dol et sur la domestication de l'animal.
Oui, effectivement, c'est deux problématiques sur lesquelles on investit beaucoup nos recherches là, depuis 2018. Comme vous le disiez, l'ours des cavernes n'est pas le seul carnivore qui a fréquenté le milieu souterrain, la grotte Chauvet. On a d'autres carnivores qui sont présents dans la grotte, de l'hyène par exemple, de l'ours brun, de la panthère. Et on a aussi deux représentants de la famille des canidés, comme vous le disiez, le loup gris, Canis lupus, ainsi que le dôle, qui est un petit canidé idée qu'on retrouve encore aujourd'hui à travers le monde dans le sud-est de l'Asie, en Thaïlande, au Pakistan, au Népal, qui est un animal qui a une taille intermédiaire entre un renard et un loup, un animal très social qui vit en bande, qui chasse essentiellement les cervidés. Et la reprise de l'étude des ossements, l'étude des ossements et des empreintes à la grotte Chauvet nous ont permis de distinguer la présence de ces deux animaux à la surface des sols, à la fois représentés par des ossements, des os longs, des mandibules, des crânes, pour ce qui est du loup, mais aussi par des empreintes. Ce qu'on a entrepris en termes de recherche, notamment l'analyse des empreintes, nous ont permis de mettre en évidence qu'on avait a priori une occupation différentielle de la cavité, avec un ou des dôles qui vont plutôt fréquenter la partie entière de la cavité, on va dire la partie encore éclairée par la lumière du jour, disons-le comme ça. Donc ça constituera l'ensemble, la zone qui se trouve juste après les boulis aujourd'hui, alors que le loup, lui, va avoir plutôt tendance à fréquenter l'ensemble de la cavité, de sorte qu'on retrouve même ses empreintes dans la partie terminale de la cavité, vraiment dans la partie du fond. Ce qui aujourd'hui pose vraiment question, puisqu'on parlait de comportement tout à l'heure, et ce comportement chez le loup actuel n'a pas d'équivalence, on n'a pas d'élément de comparaison. Donc on se pose la question de savoir pourquoi ces loups vont si profond dans la grotte. Ce qui est signalé également, c'est que ces empreintes de loups ou ces ossements, on les retrouve de manière privilégiée à proximité des zones anthropisées, c'est-à-dire des zones de passage des hommes, là on retrouve des empreintes humaines, mais aussi à proximité des parois ornées, des panneaux ornés. Donc, il semblerait, mais les recherches sont encore en cours, elles sont balbutiantes sur cette problématique-là, qu'on a une association entre le fait humain, que ce soit des empreintes ou des panneaux, et la présence de ces canidés. Et effectivement, ça pose question de la pénétration dans la grotte de l'homme et de cet animal, peut-être en même temps, peut-être de manière synchrone. Ça demande un gros travail d'inventaire et de cartographie, mais c'est ce qu'on investit aujourd'hui en termes de problématiques, et effectivement, ça pose la question de la domestication.
Merci Nicolas Latteur, merci Philippe Pops.
Merci. Merci à tous les deux. Vous nous avez donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la grotte, de visiter l'exposition Chauvet, l'aventure scientifique, qui est inaugurée aujourd'hui à la grotte Chauvet 2. Mais au fait, que pensent les premiers visiteurs qui ont eu la chance de découvrir cette expo dès 14h aujourd'hui ?
Avec un mot, comment est-ce que vous décririez cette exposition ?
C'est très ludique. On apprend vraiment beaucoup de choses sur la grotte, les techniques de peinture.
Je trouve que c'est assez incroyable de faire des peintures comme celle-là. Et il y a une grosse technique de travail. Et je pense qu'on doit quand même beaucoup s'entraîner pour faire des peintures comme ça.
C'est vraiment très très impressionnant tout ce travail de restitution. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir participer à cette inauguration. C'est super, merci.
C'est très didactique, je trouve, même pour les jeunes. Donc on a Pazza d'être Bac+12. Et en même temps, c'est détaillé. On peut trouver des choses intéressantes, quoi, quel que soit l'âge.
Et qu'est-ce que vous rapportez avec vous aujourd'hui de cette exposition, qui a plein de sciences qui permettent d'étudier la grotte?
J'ai appris quand même sur les techniques de peinture. J'ignorais qu'ils grattaient, toutes les autres techniques.
Oui, il y a beaucoup plus de techniques qu'on pensait, comme souffler sur la poudre sur la main pour faire des empreintes. Et j'ai appris aussi les techniques des griffes d'ours.
Je dirais la fascination de tout ce que nos ancêtres nous ont apporté jusqu'ici et toute leur créativité qui malheureusement se perd un peu, je trouve. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment le côté pour les malvoyants, ce qu'on voit très peu actuellement, et je suis pour ce genre d'inclusion.
Ben, c'est vraiment le visuel, ça marque énormément. Et la reconstitution au tout début de la grotte en 3D, où on peut voir par rapport à vraiment son emplacement, c'est vraiment chouette.
Je suis Isabelle Masbeuf, donc je suis conseillère régionale et à ce titre-là, j'ai le grand plaisir et l'honneur de présider le syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet.
Vous avez visité donc cette exposition temporaire qui est l'aventure scientifique conçue et produite par Univers Science. Aujourd'hui, elle se trouve à la grotte Chauvet 2. Est-ce que vous l'avez visitée donc cette exposition et en quoi elle est si particulière, unique ?
Je suis tout d'abord très heureuse qu'elle ait rejoint son site d'origine et à quelques mètres, je dirais, de la grotte originelle. Et surtout, je suis très heureuse que le grand public et aussi le plus jeune public puissent prendre connaissance, finalement, de tout ce qui se cache derrière l'étude et la connaissance de la grotte Chauvet. On a plutôt l'habitude de voir des dessins, des photos, des images de la grotte Chauvet. Et là, c'est tout l'inverse. On en voit finalement pas beaucoup. On voit la façon dont les scientifiques ont dû travailler dans la grotte, c'est-à-dire en mettant au point de nouvelles méthodes, parce que les archéologues n'ont pas pu accéder au sol. Et c'est toute l'aventure de cette belle exposition. Ce qui, pour moi, est le plus surprenant, c'est l'atelier qui permet de restituer le son tel qu'il était il y a 36 000 ans dans la grotte originelle. Depuis donc sa découverte, on a été sensibilisé aux images et là, c'est le son. Donc, c'est quelque chose qui ne peut pas se transmettre. Et aujourd'hui, où les scientifiques arrivent à reproduire le son tel qu'il est perçu dans la grotte, comme si on y était. Et donc, ça, pour moi, c'est le clou de l'exposition.
Oui, ce que vous appelez le paléoacoustique.
Exactement. Venez nombreux.
Merci beaucoup.
Et oui, le son difficile à transmettre, sauf à la radio, bien sûr. C'est déjà la fin de cette émission. Et avant de nous quitter, Carole Fritz, directrice de recherche de la grotte Chauvet, une dernière question. On est généralement avide de conclusions, mais en tant que chercheur, est-ce que ce ne sont pas les questions qui vous font avancer? Et si c'est le cas, alors quelles nouvelles questions vous vous posez aujourd'hui?
Oui, bien sûr, ce sont les questions qui nous font avancer et il y en a énormément. Je pense qu'on n'a plus le temps là. Il faudrait refaire une heure ou deux heures. La grotte Chauvet, c'est un ensemble de questions. Et pour être très honnête avec vous, on aura peut-être des réponses, mais pas toutes celles qu'on veut. Je pourrais jamais vous dire oui, ils ont fait ça parce que c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, ça marchera pas. Donc on va mettre des hypothèses. La domestication, le fait d'avoir apprivoisé des loups ou pas. La paléoacoustique, ce patrimoine immatériel. Mais ça, ce ne sont que des suppositions, tout ça. Quel rite il y avait derrière, comment ils parlaient, comment... Voilà, on ne le saura pas, mais on ira quand même, on proposera des choses, et c'est ce qui nous fait avancer. Et faut rester clair, on n'aura pas les réponses et il faut l'accepter. Nous sommes de grands frustrés et nous le resterons. Je suis désolée, vous serez un peu frustrés aussi, mais c'est ça la science.
Merci beaucoup.
Et on ferme ce plateau avec Valérie Mollès, responsable de la médiation culturelle, pédagogique et scientifique. Valérie, quelles sont les actualités de l'été à Chauvet ?
Alors cet été, nous allons, en plus des visites guidées, pouvoir vous proposer des visites audio guidées. Nous avons 4 parcours, c'est vraiment la nouveauté, et notamment pour l'accessibilité à tous. On a fait des parcours pour les 3-6 ans, une visite comptée, une visite un peu l'explorateur pour les 7-11 ans, un parcours adulte évidemment, et un parcours connaisseur. Donc ça laisse un peu plus le temps d'admirer aussi les dessins, les peintures, la géologie à l'intérieur de la grotte. Et évidemment, on réitère, vu le grand succès, les nocturnes de Chauvet. Donc c'est tous les lundis et jeudis à partir du 7 juillet, tout l'été. Donc là, c'est la féerie et justement, on met à propos le mythe des origines. Ça aborde ça, c'est un grand son et lumière dans tout le parc.
On viendra, c'est sûr.
Merci beaucoup.
Vous venez de suivre une émission plateau en direct de l'inauguration de l'exposition Chauvet, l'aventure scientifique, une exposition qui sera visible jusqu'en janvier 2027. Nous remercions l'équipe de recherche de la grotte Chauvet d'avoir partagé leur savoir-faire et leurs connaissances avec nous. L'équipe du site de Chauvet 2 de nous avoir accueillis aujourd'hui. Le syndicat mixte de l'espace de restitution de la grotte Chauvet d'avoir permis cette émission. RCF à la technique, RDB pour les productions des entractes sonores. Merci également Sophie pour la co-animation du plateau.
Et merci à toi Christelle de InfoRC pour la co-animation de ce plateau. Merci à tous.